ressemble à ça.
Audrey?
Pas mal. Audrey, ouais!
Ouais!
Écoutez de la musique barbare, ça te tente pas!
Hey, je dirais avec toi n'importe où, Don, mais je sais pas si je
mon Dieu, j'irai où tu iras.
J'irai où sauf tu là. Iras. Sauf là.
Mon manège sera toi, mais pas là.
OK.
Prenez soin de Maman Dion et de Sébastien Benoît, ouais! Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, prenons soin des autres. Marceau s'en vient avec Maître Bellemare, on vous souhaite une bonne soirée. À demain! Ouais, papi!
6h du matin, le cadran sonne. J'ouvre la radio? Trop de musique. Je change de poste pour entendre parler?
Ben oui, encore des textes, ben oui!
Ça fait que chialer. Du coup, j'ai fermé la radio. Ma copine me dit...
Voyons, pourquoi t'as fermé la radio?
Je lui ai dit, c'est pas pour moi. Au travail, j'ai parlé de mon problème à Jean-Steve. Il a toujours de bons conseils.
10% de ta paye, drette dans un CELI.
Il m'a parlé d'une radio.
Connais-tu ça, Boulevard 102?
Je lui ai dit que non. Il m'a dit...
Non, faut que t'écoutes ça.
Bref, maintenant, j'écoute Boulevard 102. Merci, Jean-Steve.
Boulevard 102. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Salut, bonsoir. Bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 Québec en espérant que vous ayez eu une belle journée. C'était pas très ensoleillé aujourd'hui, on va se le dire, mais on va essayer d'ensoleiller votre soirée en débutant avec Maître Marc Bellemare, comme à chaque lundi. Maître Bellemare, bonjour.
Bonjour, comment vas-tu?
Ça va très bien. Merci beaucoup d'être là ce soir. Je sais que vous aviez un horaire qui était assez particulier. Un avocat, c'est toujours très occupé du lundi jusqu'au dimanche.
Je sais pas les autres. Là. Dans mon cas, c'est le cas. Puis ça fait 45 ans que c'est de même. Ça n'a jamais lâché. Mais je sais pas. J'imagine qu'il y a des avocats qui sont un peu moins chevronnés que je le suis. Alors, chacun son style. Hein? Il y a 30 000 avocats au Québec, hein? Ça veut dire ça?
30 000 avocats? Tabarouette.
30 000. Quand j'ai fini, moi, en 79, là, on était 8 000. Puis tout le monde me disait, « Ah, Marc, c'est saturé. Tu vas avoir de la misère à travailler. Il n'y a plus d'ouvrage pour les avocats. Il y a trop d'avocats.
Ouais. »
C'est quatre fois plus important aujourd'hui. Puis pourtant, la population a augmenté d'à peu près une couple de millions, peut-être, là, depuis 45 ans, 1,5 million. Et il y a 30 000 avocats. Honnêtement, je trouve que c'est beaucoup d'avocats. Puis les facultés de droit essayent de faire un peu de contingentement, mais en même temps, écoute, entre toi et moi, là, c'est payant des étudiants en droit d'une faculté. Je me souviens, moi, quand j'étais à l'Université de Montréal, entre 75 et 78, quand j'ai fait mon droit là-bas, il y avait... on était 400 la première année étudiants. On était à peu près 1200 dans l'ensemble de la faculté, incluant le notariat. Maintenant, écoute, c'était facile d'accepter des étudiants en droit. Je ne veux pas dire qu'ils prenaient tout le monde, parce qu'ils en ont pris 400 sur 2600. Il y en a un sur six qui avait été choisi dans ma cohorte à moi en 75. Mais il reste que, pour une université... Les médecins formés ça coûte un bras. T'as des laboratoires, t'as de l'équipement en masse, les ingénieurs, c'est la même chose. Il y a des facultés où c'est plus coûteux, comprends-tu? Alors, ça coûte plus cher de former des médecins que de former des avocats. Les avocats, t'as assis 200 étudiants dans un amphithéâtre, puis tu donnes un cours de droit, ils ont un crayon, une tablette, puis ils écoutent, puis c'est tout, puis il n'y a pas de limite. Alors, les universités avaient tendance à prendre beaucoup de monde. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. On me dit que c'est plus difficile aujourd'hui de rentrer en droit. C'est possible qu'il y a eu des consignes pour essayer de limiter le nombre d'avocats. Mais résultat, on est 30 000 avocats au Québec. C'est quand même beaucoup. Beaucoup de femmes aussi, les finissantes, là, les dernières diplomations en droit. Il y a plus de femmes que d'hommes dans les facultés de médecine aussi. Hein. Les femmes sont rendues plus nombreuses que les hommes chez les finissants.
Ouais. Je serais curieux de savoir, par exemple, il y a combien d'avocats actifs au Québec là, à temps plein, parce qu'il y a beaucoup d'hommes de votre génération qui veulent aller à la retraite, mais ils veulent quand même rester avocats. Donc, ils vont quand même payer leurs droits pour être avocats année après année, même s'ils plaident pas tout le temps. Puis, il y en a d'autres qui conservent le titre d'avocat, mais ils sont en affaires dans d'autres domaines. Oui, ils font aller leur expertise, mais en bout de ligne, des avocats à temps plein là, au Québec, j'imagine que c'est pas plus que 80 %.
Ouais, ben écoute, il y avait une joke quand j'étais à l'Université de Montréal qui disait « Le droit s'amène à tout à condition d'en sortir. » En voulant dire, comme avocat, tu peux faire n'importe quoi. Ouais. Tu peux faire du média. Il y a des avocats qui font du média. Jean-François Racine, par exemple, qui est au Journal de Québec, est un avocat. Il y a beaucoup d'avocats dans le domaine médiatique. Dans la gestion, il y en a encore beaucoup. Tu sais, dans l'administration publique... Les services, les affaires. Moi, j'ai un fils qui veut faire de l'immeuble, il a 25 ans. J'ai dit, fais ton droit aussi, parce que ça va toujours t'aider. Peu importe ce que tu fais dans ta vie, quand tu as une carrière sur le marché du travail qui va durer entre 30 et 50 ans, c'est pas mauvais d'avoir ton titre d'avocat. Alors, va le chercher, même si aujourd'hui, tu n'as pas l'intention de t'adresser aux tribunaux. Ça pourrait changer avec les années. Il pourrait y avoir des changements d'orientation. Ton diplôme de droit pourrait te servir. Mais tout ça pour dire que les avocats ne sont pas tous devant les tribunaux à plaider et à représenter du monde, c'est sûr, parce que le bassin de difficultés qui justifie qu'une cour de justice soit saisie d'une affaire n'est pas suffisant au Québec pour alimenter 30 000 avocats en pratique privée du droit. Et je te dirais que les avocats plaideurs qui vont au palais de justice, là, c'est pas la majorité des 30 000 dont je viens de parler, ça, c'est sûr.
Non, voilà. Les Kings de Los Angeles sont passés par Québec. Ils ont eu deux matchs préparatoires avec d'autres équipes de la Ligue nationale de hockey. Je ne sais pas si vous avez été au centre Vidéotron, mais somme toute, on peut dire que bon, ça a fait un scandale au départ en raison des subventions, entre 5 et 7 millions de dollars annoncés par Éric Girard. Mais 17 000 personnes dans le stade pendant deux soirs, somme toute, c'est extrêmement positif. Donc, j'imagine que la facture qu'on enverra à Québec sera beaucoup moins grosse que ce qu'on coûtait.
C'était combien que ça coûtait, Yannick, pour assister à un match?
J'ai vu des billets qui étaient autour de 150 $ là. Il y en avait entre... Mais de mémoire, peut-être que les auditeurs sauront me reprendre, mais de mémoire, c'était entre 90 et 150 $
Mais le 5 millions, il est allé où?
Ben, c'est ce qu'on se pose comme question.
On va le savoir un jour, parce que c'est... Moi, j'ai toujours pensé que le 5 millions, ça servait à donner des billets à des gens, puis à peut-être 25-30 piastres, mais pas 150. Là. 150, c'est sûr que pour un match de la Ligue nationale, 150, tu es assis dans les toilettes, là, au Centre Bell. Là. Mais un match pré-saison, alors qu'on a donné 5 millions pour deux matchs, j'espère que tu vas, comme journaliste aguerri, j'espère que tu vas avoir des réponses à ça à un moment donné. Tu vas être capable de trouver les explications derrière ce 5 millions de $-là, parce que je ne sais pas combien ça fait par tête de pipe, là, mais admettons qu'il y a 40 000, même pas, admettons qu'il y a 35 000 personnes qui ont assisté à ces matchs-là. 5 millions, ça fait quoi? On peut faire un chiffron, là, 5 millions divisé par 35, là, mais ça fait quand même pas mal de pinottes pour chacune des personnes. Comment ça se fait que les gens payent en plus?
C'est une bonne question. Cela dit, ce qu'on nous avait dit au départ, c'était pour combler le déficit, là, mais à 17 000 personnes dans le stade, plus les concessions, ils ont vendu de la bière comme pas possible, des produits dérivés et tout ça. On ne peut pas croire qu'ils ne sont pas arrivés dans leur argent, mais cela dit, j'imagine que le Centre Vidéotron va devoir ouvrir les livres, puis Éric Girard devra nous revenir avec la facture finale. Là. Ils n'auront pas le choix. C'est l'argent du public. Des fois, ils ont tendance, les politiciens, puis vous l'avez été, je ne sais pas si vous étiez comme ça, ça me surprendrait beaucoup parce qu'on ne serait probablement pas amis aujourd'hui, mais les politiciens ont tendance à penser que l'argent qu'on envoie au gouvernement, c'est leur argent à eux, alors qu'en bout de ligne, c'est nous qui payons. Là.
Bon, oui, puis les événements sociaux comme ça, c'est de plus en plus critiqué, tu sais. Tout ce qui sort de la sphère purement gouvernementale, là, les fonds publics, là, les coupes du président à Montréal, la Ligue nationale, les matchs pré-saison à Québec, tout ce qui touche les activités touristiques, on nous raconte toujours la même marotte. Là. Madame Proulx, qui est ministre du Tourisme, là, disait la coupe du président, ben on met 5 millions là-dedans, puis ça rapporte 70 millions. Maintenant, ben c'est un peu ridicule. Là. D'abord, montrez-nous les études qui prouvent qu'effectivement, le simple fait de mettre 5 millions dans la coupe du président à Montréal va rapporter 75 millions, parce que c'est multifactoriel, les revenus. Là.
Ouais.
Ce qui fait qu'un Américain de New York vient voir un tournoi de golf professionnel à Montréal, c'est pas parce qu'il veut, c'est pas parce que Mme Proulx a mis 5 millions dans le pot, là. C'est parce qu'il y a un événement. Alors, dans quelle mesure cet événement-là aurait été tenu quand même, même si les fonds publics n'avaient pas été au rendez-vous, je ne le sais pas. Mais tu as raison, les Kings de Los Angeles, eux, nous disent, Luc Robitaille dit, mais moi, je ne donne pas d'informations sur comment on a eu d'argent puis où l'argent est allé. C'est, à mon avis, plus ou moins correct que Luc Robitaille n'ait pas donné plus de détails là-dessus. Je pense qu'il aurait pu s'ouvrir et dire, écoutez, nous autres, on a eu tant. Puis voici, pour le transport des joueurs, ça a été ça. Pour l'hôtellerie, ça a été ça. Pour les repas, ça a été ça. Ça se fait, ça me semble, c'est pas compliqué, pour une, même si c'est une équipe de la Ligue nationale. Là. Mais pour M. Girard, lui, il a définitivement l'obligation de rendre compte puis de dire, bien, sur le 5 millions, voici comment l'argent était dépensé en détail, parce que j'imagine qu'il y a une reddition de compte de la part des Kings de Los Angeles qui doivent dire au gouvernement, bien, voici, le 5 millions va servir à ça. Ils ont le droit de se faire un peu de profit aussi, là, mais il faudrait qu'on le sache compte tenu de l'importance de la somme accordée et aussi de l'importance de la polémique qui entoure cette subvention-là, qui est une première au Québec. Là.
Ouais. Est-ce que vous croyez que c'est un message qu'on envoie à la Ligue nationale de hockey comme quoi Québec est toujours une ville qui aimerait accueillir son équipe et qui serait capable de subvenir aux besoins de cette équipe-là si jamais un jour on a le retour des « entre guillemets nordiques » Est-ce que c'est un message où la ville de Gary Bettman est parfaitement au courant de ce qu'est la ville de Québec et c'est pas ça qui va nécessairement changer ses décisions dans les prochaines années, tant aussi longtemps qu'il sera là, là?
Non, puis M. Bettman n'était pas là, je pense, pendant les matchs.
Non, il était pas là,
M. Daly et son assistant n'étaient pas là non plus. Moi, je pense que ça change strictement rien quant à la position de la Ligue nationale sur la ville de Québec. Écoute, Seattle a eu une franchise bien avant nous autres, même si on était sur les rangs avant. Je continue de dire que Québec est un trop petit marché pour des équipes du calibre de la Ligue nationale aujourd'hui. Ils vont chercher des marchés de 5 à 10 millions. Et même Montréal, qui a quand même une équipe de la Ligue nationale, mais si Montréal n'en avait pas et voulait en avoir une, je pense que ce serait pas mal compliqué, même pour Montréal, de rivaliser avec des grandes villes américaines, des bassins de 5 à 10 millions de personnes, avec des moyennes salariales de 100-125 000 $. Là, écoute, il y a de l'argent. Il y a beaucoup de villes aux États-Unis qui ont beaucoup de travailleurs puis beaucoup de professionnels qui sont très argentés puis qui ont un moyen de payer. Et Québec, moi, j'avais des billets de saison dans le temps des Nordiques. C'est sûr que s'il y avait une équipe de la Ligue nationale, j'aurais encore des billets de saison. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent, moi, je vais y aller, je veux une équipe de la Ligue nationale, mais la vraie question, c'est pas de savoir si tu veux une équipe de la Ligue nationale, c'est de savoir combien de matchs tu vas voir par année quand on va avoir une équipe des Nordiques à Québec. Puis la plupart des gens vont vous dire, ben 2, 3, peut-être 4 fois. Vas-tu acheter des billets de saison à, je sais pas, ça doit être rendu pas loin de 50 000 $, 2 bons billets de saison, là, parce que moi, j'avais des billets au Centre Bell jusqu'en 2019, des billets de saison, puis, attends un peu, ça coûtait combien? Je pense que ça coûtait une quinzaine, 12 à 15 000 piastres avec les séries puis tout, là. C'était très cher. Puis quand c'était des billets contre Toronto, Pittsburgh, Boston, c'était beaucoup plus cher. Puis les billets allaient jusqu'à 350 piastres la shot. Fait que quand tu as une gardienne à payer, puis tu as du gaz à payer en plus, puis que tu manques une journée de travail, qui va être capable de payer des billets de saison avec une équipe de la Ligue nationale? Ils sont pas fous, les gens de la Ligue nationale. Ils savent ça. Puis je pense qu'on n'a pas le bassin de population pour ça. On n'a même pas d'équipe de la Ligue canadienne de football au football, alors que ça serait un format professionnel, à mon avis, qui correspondrait beaucoup plus à la ville de Québec. La Ligue canadienne, ça fait longtemps qu'ils veulent avoir une équipe de la Ligue canadienne. Moi, j'aimerais ça voir notre équipe de Québec qui battrait les Alouettes puis emmener la Coupe Grey à Grande Allée. Là. Je pense que ça, c'est un projet qui se tiendrait debout, mais une équipe de la Ligue nationale, regarde, va voir les conditions qui ont permis à Seattle d'avoir une équipe, va voir le prix qu'ils ont payé pour la franchise, là.
Mais ça, vous saurez me reprendre, là, mais il y avait beaucoup de rumeurs concernant le hockey universitaire à l'Université Laval, parce qu'on disait ouais, il n'y aura pas de hockey universitaire parce que les remparts sont là, c'est détenu par une famille qui est quand même importante à Québec, qui en fait beaucoup pour la ville de Québec. Après ça, ben la LCF, on s'était fait dire la même affaire. Je sais que vous étiez derrière le projet. On se disait, ben est-ce qu'il y a une influence d'une certaine famille qui ne voudrait pas que la LCF aurait un impact négatif sur le football du Rouge et Or? Ça, là, est-ce que vous êtes capable de confirmer que c'était juste une rumeur et que c'était pas vrai, là, qu'on était comme on se sentait plus ou moins à l'aise de mettre des bâtons dans les roues d'une famille qui en fait beaucoup pour la Ville de Québec?
Non, je sais pas. Je sais que le Rouge et Or vit très bien. On a des foules Rouge et Or qui vont jusqu'à 20 000. C'est un bon spectacle, mais c'est un spectacle universitaire. Et moi, j'ai eu des billets de saison avec des Alouettes là, jusqu'à peu près en 2020, jusqu'à la pandémie. C'est un très bon spectacle, beaucoup d'atmosphère, les Alouettes vont bien. On pourrait avoir une équipe à Québec qui pourrait rivaliser avec celle de Montréal. Maintenant, qui pourrait investir dans un projet comme celui-là? C'est sûr que la Ligue canadienne exige un stade de 25 000 sièges. On ne l'a pas à Québec. On a un stade de 12 000 sièges assis. Mais on va chercher jusqu'à 20 000 avec les bipèdes debout, là, les standing, comme on les appelait dans le temps du vieux forum, là, les gens debout. Et je ne peux pas croire, moi, aujourd'hui, avec la technologie, les fabricants de stades, les constructeurs de stades, que tu leur dis, vous allez nous faire un stade de 25 000 personnes au BEPS, c'est sûr qu'ils sont capables de le faire avec des estrades, avec une surélévation, une inclinaison. Ils sont capables de faire un stade de 25 000 personnes à Québec. Maintenant, je regarde, par exemple, les Tiger Cats de Hamilton. Hamilton est une ville d'à peu près 750 000 personnes. Winnipeg est à peu près 700 000 personnes. On n'est pas loin du gabarit de Québec. Puis dans ces deux villes-là, il y a des équipes de la Ligue canadienne de football qui vont très bien. Puis il y a des équipes universitaires qui vont très bien aussi dans les mêmes villes. Ce n'est pas nécessairement le même public, ce n'est pas nécessairement le même prix pour le billet. Mais puis à Regina, c'est une ville de 250 000 personnes. Puis il y a aussi une équipe universitaire qui joue dans le stade. Alors, je me demande bien ce qui manque à Québec pour qu'on puisse avoir un spectacle de ce calibre-là. Puis je répète, la Ligue nationale, c'est à peu près inaccessible. La NBA, la NFL, on y pense même pas. Mais ce qui correspondrait, à mon avis, à la Ville de Québec, ça serait davantage une équipe de la Ligue canadienne de football. Puis tu t'imagines avec... 4 matchs par saison avec, contre les Alouettes, 2 à Montréal où Québec serait l'invité, 2 à Québec où Montréal serait l'invité. On recréerait la rivalité à un niveau beaucoup plus élevé. Moi, j'aime bien ça, le Rouge et Or qui joue contre les Carabins puis qui joue contre des Sherbrooke, puis le Vert et Or de Sherbrooke, c'est le fun. Mais j'aimerais ça voir Québec se mesurer avec Toronto, avec Vancouver, avec Calgary, et avec Ottawa, puis avec Montréal, là, on serait dans des niveaux de villes qui sont plus importants.
On parle d'un autre dossier, Maître Bellemare. De mémoire, vous avez été impliqué dans ce dossier-là. Là. Vous saurez me dire si c'est ma mémoire qui fait défaut. C'est le dossier de Jacques Côté qui a malheureusement été tué par Kim Lebel. C'est des événements qui sont survenus en 2022. Kim Lebel était en crise psychotique et il a malheureusement tué Jacques Côté. D'ailleurs, il a été reconnu criminellement non responsable dû au fait qu'il avait des problèmes psychiatriques. Là, il y a une enquête du coroner qui est en cours et on nous dit que l'assaillant, donc Kim Lebel, va témoigner en cours sur l'enquête du coroner.
Oui. Écoute, c'est quand même spécial, mais moi, j'ai été impliqué dans ce dossier-là tout à fait parce que je connais bien la famille Lebel. Et on se souviendra, au lac Saint-Charles, ça avait ébranlé beaucoup la population de Québec. 6 avril 2022, la mère de Kim Lebel... constate que son fils présente des signes de déficience mentale. Il n'écoute pas, il est colérique, il a un comportement complètement désaxé, déréglé. Alors, le lundi matin, elle se présente, elle appelle la police pour dire « Voulez-vous amener mon fils en examen psychiatrique? Il a déjà eu des difficultés de ce type-là et j'aimerais ça qu'il soit examiné. » Il se présente 2 policiers pour rencontrer Kim Lebel, qui vit dans sa maison à lui à Lac-Saint-Charles, pas très loin chez ses parents. Et on n'appellera pas ça un examen psychiatrique, mais on va appeler ça une rencontre avec 2 polices. Puis les policiers décident, sans plus de préambule, que Kim Lebel a l'air correct, puis qu'il n'y a pas de lieu de s'inquiéter. Puis appelle Mme Lebel pour dire, votre fils est bien fin, puis on l'a rencontré, puis on n'a pas aucun doute qui nous permettrait de l'amener à un examen psychiatrique. Fait que la mère est complètement dévastée. Le mercredi, elle fait une démarche, et elle va s'adresser au tribunal le lendemain pour demander à la Cour du Québec une ordonnance formelle pour que son fils soit examiné. Madame Drouin, qui est la mère de Kim Lebel, le fait, écoutez, elle a toute mon admiration, cette femme-là. Elle se présente au palais de justice, elle n'a pas d'avocat, elle s'en va là tout seule. Elle fait ça comme une grande, puis le juge lui donne raison, puis il rend une ordonnance. Ordonnance qu'elle va porter au Parc Victoria autour de midi, en disant aux policiers, bien là, là, niaisez-moi pas, là, c'est pas, je vous demande pas à vous d'avoir un avis, là, je vous demande de respecter l'avis de M. le juge qui vient d'émettre une ordonnance pour examiner mon fils. Ils l'ont niaisé pendant 3 heures et demie. Bien là, on va vérifier ci, puis là, on va vérifier ça. Puis Mme Lebel qui est là, puis qui dit, écoutez, c'est urgent, c'est important, mon fils est complètement désorganisé. Il peut s'en prendre à lui-même, il peut s'en prendre à d'autres. C'est important de bouger. Alors, la police, OK, on va regarder ça. 3 heures et demie, ils disent, mais écoutez, on a fait pas mal toutes les vérifications. Okay. Vérifications, pourquoi des vérifications? Vous avez un jugement de cour, là. Les vérifications, elles ont été faites par le juge. Là. Vous autres, votre job, c'est de sauter dans votre char, d'aller neutraliser mon fils avant qu'il fasse quelque chose de grave. Alors, Mme Lebel quitte Parc Victoria vers 3 heures et demie. Elle arrive à Lac-Saint-Charles vers 4h15 avec son mari. Puis, qu'est-ce qu'elle voit en avant de chez elle? Son fils en train de tuer le voisin Jacques Côté avec une barre à clous. Alors, c'est M. Lebel qui est sorti de son char puis qui a neutralisé son propre fils. Quel désastre épouvantable. Alors, moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait une faute de la part de la Ville de Québec de ne pas avoir spontanément, sans plus de délai, consulté... se déplacer vers Lac-Saint-Charles pour neutraliser Kim Lebel. Maintenant, la coroner va regarder ça. On parle quand même d'une enquête assez exhaustive. Moi, je suis très content que ça se fasse parce que tu le sais, Yannick, on envoie des cas comme ça dans l'actualité, des parents complètement désemparés, dévastés. Ils ne savent pas quoi faire avec leur enfant ou leur frère ou leur sœur ou leur père. Tu sais, des gens de bonne foi, corrects, des citoyens honnêtes qui ont dans leur famille des gens qui sont malades mentalement. Ils sont schizophrènes, ils voient passer des trains, ils voient passer le pape en bateau dans leur chambre, ils hallucinent et ils ne savent pas quoi faire, puis ils ont peur pour leur sécurité. Puis dans le cas de Kim Lebel, Kim ne restait pas avec ses parents, mais dans d'autres cas, l'enfant, il est dans la chambre de côté, là. Comprends-tu? Puis tu ne sais pas à 4 heures du matin s'il ne se présentera pas avec une barre à clous ou un couteau, là. Alors ses parents-là sont complètement défaites et là, la coroner va regarder ça. On parle de quand même de 19 jours d'enquête et d'une quarantaine de témoins, dont Kim Lebel, qui va, par visioconférence, livrer son témoignage. Je pense que c'est autour du 17 octobre, dans ce coin-là. Alors, ça va être intéressant de suivre ça et surtout de voir quelles sont les recommandations que la coroner va faire pour... elle a toute une job sur les bras, parce que ça prend quoi? Est-ce qu'il faut nécessairement mobiliser une équipe de psychiatres qui vont être sur Teams ou sur Zoom à chaque fois que la police va intervenir pour émettre un diagnostic puis vérifier? Parce que la police, ils ne sont pas formés pour ça. Est-ce qu'on va donner une formation aux policiers? Est-ce qu'on va modifier la loi pour prévoir des mécanismes? Est-ce qu'on va faciliter l'accès à des examens psychiatriques lorsqu'une personne a un comportement déréglé ou présente des signes de déficience? Je ne le sais pas, mais c'est une bonne idée que la coroner se penche là-dedans. Puis c'est la même coroner que celle qui avait fait l'enquête sur Madame autochtone qui est morte à l'hôpital de Joliette. Là. Alors, c'est quelqu'un de crédible et j'ai bon espoir qu'on en arrive à des conclusions intéressantes.
J'ai Etchakwan en tête, c'est ça?
Oui, exactement. Madame Etchakwan. Alors, c'est la même coroner qui, je pense, fait un bon travail. Des coronaires qui sont plus connus que d'autres, elle l'est beaucoup. Et l'enquête a commencé ce matin au Palais de justice de Québec. Avec quelques témoignages, mais 19 jours, ça veut dire qu'il y a pas mal de monde sur la barre.
Oui. Maître Bellemare, moi, je suis plein d'empathie envers les gens qui éprouvent des difficultés au niveau psychologique, là, mais la désince a commencé fin 70. On se disait que ces gens-là étaient beaucoup mieux à l'extérieur des murs qu'à l'intérieur des murs. Moi, j'ai connu Robert Gifford dans les années 80, non pas comme patient, mais comme résident de Beauport. Je voyais des patients qui avaient des permissions de sortie et qui fonctionnaient quand même bien à la société, mais ils devaient retourner le soir à Robert Gifford pour dormir, pour avoir peut-être les soins le lendemain. Et forcé d'admettre que la désince n'a pas nécessairement eu énormément de côté positif. Là. C'est rendu que les gens qui ont besoin d'être encadrés sont dans la rue. Malheureusement, quand on parle avec les policiers du service de police de la Ville de Québec, 80% des interventions au centre-ville de Québec, ça touche la santé mentale. Comme vous l'avez dit, les policiers ne sont pas formés là, pour faire face à des problèmes de santé mentale. Ils essaient de faire ce qu'ils peuvent avec les outils qu'on leur donne, les noms d'organismes à gauche et à droite, mais ce n'est pas le travail des policiers de s'occuper de ces gens-là. Pourquoi Robert Giffords, qui existe encore, pourquoi on la remet pas comme elle était avant? Donc, des gens qui ont des épisodes psychotiques, ils rentrent par ambulance, s'en vont là. C'est un endroit qui est surveillé, c'est un endroit qui est convenable. On peut nourrir ces gens-là 3 fois par jour s'ils le désirent. Puis avec des psychiatres, des médecins qui pourraient être là, comme c'était dans le temps, sans nécessairement les mettre en prison. C'est-à-dire, on les met ensemble, puis on essaie qu'ils soient le plus protégés possible. Mais pendant ce temps-là, il n'y a pas de victimes extérieures, là. Ces gens-là se font traiter, ils ont accès à des médecins sur place, mais là, de les voir errer dans nos rues comme ça, ou de voir des fils de bonne famille qui arrivent, qui ont des épisodes psychotiques, puis bon, frappent sur le voisin, c'est le père qui est obligé de les séparer les deux, puis ça se traduit en meurtre. Maître Bellemare, on est rendu loin là, dans nos histoires de désince. Là.
Oui, effectivement, et je vais te donner une recette, la recette qui marche pour la désinstitutionnalisation. La désinstitutionnalisation, ça consiste à ne pas priver un individu de liberté. C'est un peu ça. Ça veut dire de ne pas laisser un malade psychiatrique en institution, dans un hôpital ou dans un centre psychiatrique fermé, avec du personnel, avec un local, avec un réfectoire pour le nourrir, avec un dortoir pour le coucher. Et ça s'applique aussi dans le système carcéral en général. La recette, c'est simple. C'est un ministre qui trouve que ça coûte trop cher, puis un lobby très puissant au Québec de désinstitutionnalisation. J'entends les travailleurs sociaux, les criminologues, les avocats criminalistes aussi, la Commission des droits de la personne. Ah ben non, il ne faut pas les institutionnaliser. Le meilleur traitement, c'est de les sortir, qu'ils voient du vrai monde, qu'ils aillent chez Tim Hortons, qu'ils aillent... à l'épicerie, qu'ils fassent une vie normale, à la limite, leur donner un permis de conduire, leur donner un job. Je comprends, mais c'est, je pense, essentiellement un motif économique qui est derrière tout ça, parce que c'est sûr que plus que tu as de monde en liberté, Yannick, moins tu as de monde en institution, moins que ça coûte cher au système. On s'entend? Le gars, là, on lui donne 500-600$ par mois d'aide sociale ou 1000$ s'il est inapte au travail. Puis on n'a pas à s'occuper de lui au niveau des institutions. On n'a pas d'infirmières, on n'a pas de travailleurs sociaux, on n'a pas 56 000 personnes qui pour s'en occuper quand ils sont disponibles et quand la main-d'œuvre le permet. Mais aussi, on n'a pas à construire des méga hôpitaux avec des locaux abondants pour pouvoir garder en captivité l'ensemble de ces gens-là. Alors, c'est toujours le dilemme de garder ces gens-là pour protéger la société et se protéger eux-mêmes, les traiter comme il faut. Mais en même temps, est-ce qu'on peut les laisser sortir? Est-ce qu'il y a un risque? Moi, je suis plutôt partisan du fait qu'on les garde en dedans le plus longtemps possible, quitte à mettre les ressources qui s'imposent, même si ça coûte cher, pour pouvoir protéger la société, faciliter l'institutionnalisation avec du personnel qui va permettre de s'occuper de ces gens-là puis de s'assurer qu'ils ne présentent aucun risque pour la société. Mais tu vois, au niveau de la prison, c'est un peu la même chose. En 2022, le gouvernement Trudeau a adopté la loi C-5 qui permet de donner des peines dans la communauté à des condamnés pour voies de fait, agressions sexuelles et autres, des fraudes, n'importe quoi. Avant ça, c'était pas possible. Toute forme d'agression sexuelle, tu étais en prison. S'il y avait une peine, tu pouvais pas avoir une peine dans la communauté. Mais Trudeau a ouvert ça, ce qui fait qu'en l'année passée, en 2023, il y a un condamné pour agression sexuelle sur 5 au Québec qui a bénéficier d'une peine dans la communauté. Pour moi, une peine dans la communauté, c'est une peine bonbon. C'est pas compliqué, là. T'es pas dans une prison, t'as pas une privation totale de liberté, t'es privé d'une partie de ta liberté, mais c'est pas pareil comme la prison. Et les résultats qu'on atteint en termes de réadaptation sont pas nécessairement les mêmes. La surveillance, qu'en est-il, on ne sait pas. Mais pour moi, c'est pas une vraie peine. Mais ça a été permis. Pourquoi tu penses que ça a été permis, Yann? Ça a été permis parce que ça coûte moins cher au gouvernement fédéral, ça coûte moins cher au système carcéral, puis ils sortent de prison des gens qui devraient normalement y être. Alors, c'est la tendance, mais je pense que ce qui sous-tend la problématique, c'est beaucoup, beaucoup une question financière.
Kim Lebel est où aujourd'hui? Parce qu'il a été déclaré non criminellement responsable là, d'avoir tué Jacques Côté. Il fait quoi aujourd'hui? Là, on sait qu'il va participer à l'enquête du coroner. Puis merci beaucoup de le faire.
Ben, il est toujours en institution. Il est toujours en institution. Parce que quand tu es reconnu non criminellement responsable, tu n'es pas condamné, tu n'es pas acquitté non plus, tu es libéré. Alors, ça veut dire que plutôt que d'aller dans un pénitencier pendant 25 ans pour un meurtre prémédité, ou même pour un homicide involontaire, tu peux avoir moins que ça, mais il reste que la peine maximale, c'est 25 ans. À ce moment-là, si tu es non criminellement responsable, ben il ne t'envoie pas à manger des chips chez vous, là, il t'envoie en institution. Et à ce moment-là, c'est la commission d'examen des troubles mentaux dans chaque province qui va analyser le dossier du malade pour voir s'il est autorisé à sortir. Alors, on a des cas qui sont documentés où la commission d'examen des troubles mentaux a laissé sortir un gars qui a tué son voisin un an plus tard parce qu'il avait trouvé la bonne molécule. Puis le psychiatre est venu dire que ce gars-là ne représentait plus de danger en autant qu'il prenne ses médicaments. Là. C'est entre un an puis 25 ans, on s'entend que tu as intérêt à être reconnu inapte et non responsable criminellement parce que tu t'en vas en institution, ce qui n'est pas pareil comme la prison. Et le délai va être beaucoup moindre que la peine que tu pourrais avoir encourue si tu avais été déclaré coupable de l'infraction comme telle. Et ça se passe au Québec, c'est le tribunal administratif du Québec qui joue ce rôle-là. Il y a une division particulière qui s'appelle la division d'examen des troubles mentaux. Et les gens qui ont été ou bien déclarés inaptes à subir leur procès pour cause de maladie mentale, ou bien qui ont été libérés de l'accusation pour cause de non-responsabilité criminelle, il y a deux types de cas qui sont présents là. À ce moment-là, ces gens-là se présentent, la plupart du temps avec leur avocat, devant trois personnes, trois juges administratifs. D'habitude, tu as un juriste, tu as un psychiatre, tu as un psychologue. Et ces gens-là décident si la personne est apte ou non à quitter l'hôpital, à être libérée complètement ou à être libérée sous condition. Des sorties avec escorte, des sorties temporaires. La commission peut imposer n'importe quelle condition, mais c'est le chemin que prennent les gens reconnus non criminellement responsables, c'est-à-dire le chemin de la thérapie psychiatrique en institution plutôt que le chemin de la prison ou du pénitencier.
Ouais, pour ce qui est de Kim Lebel, bon, vous l'avez dit, il est en institution actuellement. Il a été déclaré accusé à haut risque, c'était au mois de mars dernier. Donc, est-ce qu'on sait s'il va revoir la lumière du jour à un moment donné ou il va rester en institution tout simplement parce qu'il est non fonctionnel, là?
C'est très difficile de savoir qu'est-ce qui va devenir de Kim Lebel, comme on ne sait pas ce qui va devenir de la plupart des gens qui sont non criminellement responsables. Au Québec, on a un taux assez élevé de non criminellement responsables. Je me souviens, il y a quelques années, ben, tu sais, dans le temps de Carl Giroir, je pense, le gars de l'Halloween là, qui avait tué deux personnes.
Avec
dans
son
le
sabre.
Québec. C'est ça. Lui, il a essayé d'être déclaré non criminellement responsable, ça n'a pas marché. L'assassin de la petite l'attaché politique, je pense que c'est Proulx qui s'appelait, l'attaché politique du ministre Béchard à
J'ai
l'époque.
J'ai Nancy Michaud en tête avec...
Nancy Michaud, lui c'est Francis Proulx,
c'est ça, exact.
En tout cas, lui il disait qu'il avait pris de l'affecteur, puis ça l'avait rendu complètement fou, puis c'était ça, alors il a perdu. Et on a jugé qu'il n'était pas non criminellement responsable. Mais je me souviens qu'à cette époque-là, on parle d'il y a à peu près 5-6 ans, il y avait des statistiques qui avaient sorti qui montraient qu'au Québec, on avait à peu près la moitié des cas de non criminellement responsables au Canada, alors qu'on a 22 % de la population. Fait qu'on, il y a eu un temps où on était assez « open » entre guillemets là, sur le non criminellement responsable au Québec. Et il y a quelques accusés qui en ont bien profité. Mais aujourd'hui, on sent là, que depuis l'affaire Guy Turcotte, surtout, là, je ne sais pas, il y a comme dans la population générale une forme de scepticisme face au non-criminellement responsable. Alors, si c'est ça que tu invoques comme défense, c'est aussi bien de te faire ta tuque comme faux pour prouver que, ou tenter de prouver qu'au moment de l'événement, tu étais complètement incapable de savoir ce que tu faisais.
Bien, c'est parce que, bon, moi, je ne suis pas avocat, donc j'ai le droit de le dire. Là. J'ai l'impression, Maître Bellemare, que quand il y a un crime qui est commis, surtout un meurtre ou une agression sexuelle et tout ça, faut que justice soit rendue. Puis dans le dossier de Kim Lebel, je comprends que cet individu-là pouvait être psychotique, puis il pouvait ne pas être responsable de ce qu'il a fait. Mais la valeur de la vie de Jacques Côté est importante. Cet homme-là ne méritait pas une fin de vie comme ça, et cet homme-là a été tué. Faut que ce soit nécessairement de la faute à quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis si justice peut être rendue, bien, ça va être de remettre les choses en place qui vont faire en sorte que ce genre d'événement-là ne reproduise plus jamais, là.
Oui, c'est sûr. C'est effectivement le mandat de la coroner que de présenter des recommandations qui vont faire en sorte que ça arrive plus jamais, ou en tout cas que ça arrive à peu près plus jamais, parce que plus jamais, c'est quand même difficile à évaluer. Mais oui, mais tu sais qu'on vit dans une société de no fault au Québec. Il y a un gars qui meurt dans une salle d'urgence parce qu'il n'y a pas de docteur, ben c'est le système. C'est jamais les infirmières, c'est jamais le docteur, c'est jamais les ambulanciers. Il y a une fraude au gouvernement, c'est jamais le ministre, c'est jamais le sous-ministre, c'est jamais personne. Au Québec, on est bon là-dedans, le no fault généralisé, c'est quasiment dans notre charte des droits là, au Québec. Là. Mais à mon avis, du côté de Kim Lebel, là, la Ville de Québec a certainement des choses à revoir dans ses procédures dans ma tête à moi, je ne comprends pas comment on puisse continuer de faire des vérifications alors qu'un jugement de cour nous interpelle formellement comme service policier d'aller chercher l'individu pour le soumettre à un examen psychiatrique. Moi, ça me dépasse. Il y a eu mort d'homme là-dedans. Et puis ça peut être corrigé pour faire en sorte que dès que la police est saisie d'une ordonnance de ce type-là, tu t'embarques dans ton char, tu mets ton hot dog puis tes deux beignes de côté, là. Tu sautes dans ton char de police, tu vas chercher le gars, puis tu le sors de la société. Le temps qu'il soit évalué en psychiatrie, puis traité pour la condition qu'il présente, parce que le juge va statuer. Dans notre société, j'ai toujours pensé que c'était les juges qui avaient le dernier mot et non pas la police.
Maître Guéanne Kamel, c'est elle qui est coroner dans ce dossier-là. Quand j'étais à l'école, on me disait, là vous allez me dire, l'école c'est pas pareil comme la vie. Effectivement, il y a quelques différences près, ou des fois c'est totalement différent, mais on me disait que quand un coroner faisait son rapport, le gouvernement devait prendre acte du rapport et faire des modifications immédiates. Puis là, quand je suis arrivé dans les médias, je me suis rendu compte que les coroners sont un peu à bout, parce qu'à chaque fois qu'ils font des rapports, ben on a l'impression que ça reste dans l'étagère, puis c'est pas ouvert pantoute par le gouvernement. C'est quoi qui est vrai là-dedans? Est-ce que le gouvernement prend acte des rapports? Est-ce qu'il modifie rapidement tout ce que le coroner demande de modifier?
Non, pas du tout. Moi, je pense que les coroners, écoute, ça, à mon avis, ce sont les grands incompris dans la société. Ils font beaucoup de travail, ils sont très près ils sont très près de la réalité, ils entendent des témoins, ils mettent beaucoup d'énergie. Cette enquête-là pour Kim Lebel, ça va coûter Jacques Côté, la victime, ça va coûter des millions de dollars, ça c'est sûr. Les recherches, tout le monde qui est mobilisé là-dedans, les avocats, la salle d'attente qui est pleine, la salle de cours, le délai pour rédiger, les recherches, ça va coûter un bras. Et malheureusement, il n'y a rien qui oblige un coroner à avoir ses recommandations respectées. Je te parle juste du point 05, là. D'accord ou pas avec le point 05, on est la seule province au Canada à ne pas avoir une suspension de permis administrative au moins pendant quelques jours lorsqu'il y a un taux d'alcool à point 05. Ça fait longtemps que des groupes de victimes le demandent. Et les rapports de coroner, Yannick, là, je ne sais pas combien il y en a qui se sont empilés depuis 5 ans là, et même 10 ans sur la question du point 05, ça n'a jamais bougé. C'est le gouvernement qui a le dernier mot. Et sur bien d'autres sujets, le gouvernement ne bouge pas. Des fois, c'est des intersections dangereuses. On voit qu'il y a des lumières qui ne marchent pas, qui sont mal synchronisées. Des fois, c'est des routes qui sont dangereuses. Il n'y a rien qui oblige le gouvernement à modifier la situation. Ça fait des belles manchettes, ça fait des belles nouvelles, puis même il y a des coronaires qui sont capables de parler, puis qui sont capables de donner des opinions assez tranchées. Je pense au colonel Malouin, Luc Malouin, qui était très connu à Québec. Mais dans quelle mesure on suit les recommandations, c'est à la discrétion du gouvernement, mais normalement, c'est le ministre de la Sécurité publique, parce que le coroner relève du ministre de la Sécurité publique. Normalement, c'est le ministre Bonnardel qui est ministre de la Sécurité publique au Québec, qui devrait soutenir les recommandations des coronaires. Mais souvent, on n'en entend pas parler plus que ça. T'sais. Au début, ça donne un boom dans l'actualité. On en parle pendant une journée, deux jours, une semaine. Puis à un moment donné, il y a des lignes ouvertes là-dessus, puis on en parle, mais il n'y a personne qui revient sur le sujet au bout de 6 mois, 1 an pour voir si ça a été réalisé. Puis je pense que le taux de respect des conclusions coronaires au Québec est assez faible, malheureusement.
C'est d'une tristesse parce que je veux dire, c'est un travail qui est très, très, très important. On veut savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement, c'est quoi les correctifs qu'on aurait pu mettre pour faire en sorte que cet événement-là ne serait pas arrivé ou encore pour qu'il n'y ait plus d'événements du genre qui arrivent, puis de voir que c'est tabletté plus souvent qu'autrement, puis que le politique ne semble pas suivre, c'est d'une tristesse. Maître Bellemare, ça fait déjà 40 minutes qu'on jase, on est des placoteux, hein?
Hey, c'est bon.
Ah oui, c'est bon. C'est
ça
bon.
Passe
ça...
vite.
Ben oui, ça passe vite.
Agréable compagnie.
Exact, exact. Ça, c'est moi qui dis ça, que vous êtes d'agréable compagnie. Oh! Pour des dossiers de SAC, d'IVAC, de CNSST, on vous contacte chez bellemareavocat.ca. On va faire une courte pause, puis on vous revient tout de suite après.
Marceau, le soir. Le soir. Reg against le matin. Le matin.
Boulevard 102-1.
2009, chaque fois qu'on se parle, la question revient. Il y a plusieurs mois déjà, vous nous parliez à un certain moment d'une réponse vers la fin du mois d'août, quant à une présentation ou pas à la mairie de Québec. Est-ce qu'on peut avoir une nouvelle date limite à peu près sur votre présentation ou pas à la mairie de Québec, Claude Villeneuve?
Maxime, je vais annoncer ma décision avant que tu aies passé ton permis.
Oh, j'adore!
Oh, que c'est bon!
Pour ton rattrapage de Rage Against the Machine, rends-toi sur le blvd.fm et l'application mobile.
102.1.
C'est la grande vente chez la Tuilerie. Du 4 au 28 octobre, on paie les taxes sur toutes les tuiles, bois franc et vinyle. Trouvez votre design de rêve à la Tuilerie Québec ou sur latuilerie.com.
Chez Volkswagen Saint-Nicolas, on veut toujours le meilleur pour vous. Profitez d'un taux de financement à 1,99% jusqu'à 60 mois et d'un rabais pouvant aller jusqu'à 1 000 $ sur votre prochain Volkswagen Taos. Vivez la conduite allemande. Volkswagen Saint-Nicolas, ça clique avec Saint-Nic.
Yuzu Sushi présente les Pop-Up Sushi. 4 sushis totalement éclatés avec bonbons pétillants, popcorn, carré de Rice Krispies ou tofu saté. Une expérience surprenante, osez les essayer pour un temps limité. Yuzu, c'est toujours bon.
C'est la grande vente sous l'attente chez Avalanche. Du 10 au 14 octobre, des méga rabais vous attendent à nos succursales de Sainte-Anne-de-Beaupré et Wilfrid Hamel. Économisez jusqu'à 70 % de rabais sur les vêtements d'hiver, manteaux, pantalons, accessoires de ski et profitez d'une remise de 25 $ sur la location de ski junior à 99 $. Ne manquez pas l'occasion. La grande vente sous l'attente, c'est du 10 au 14 octobre chez Avalanche. Des vêtements chauds pour un hiver agréable.
L'automne est arrivé. Ben oui, déjà. Profitez des températures douces pour installer votre nouvelle thermopompe avec EnviroConfort. Économie, moment cocooning et chaleur garantie. Visitez EnviroConfort.com pour découvrir nos offres automnales. EnviroConfort, le choix du consommateur numéro 1 en chauffage et climatisation.
Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com. Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec du palmarès Via Capital. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contacts. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com, courtier immobilier via Capital. SimonLaberge.com.
Vous envisagez une réorientation de carrière?
Vos adolescents hésitent à choisir un programme d'études?
Vous avez des questions sur le marché du travail et cherchez des conseils?
Pour une 30e année, le Salon Carrière Formation de Québec est de retour au centre de Foire Expo-Cité. Près de 150 exposants du monde de l'emploi et de l'éducation seront présents pour échanger avec les chercheurs d'emploi et les étudiants.
Des opportunités à saisir, un avenir à construire. Du 24 au 26 octobre, entrée et stationnement gratuit.
SalonCarrièreFormation.com. Quoi de plus réconfortant que le légendaire pâté à l'oie de Normandin? Fabriqué à la main et authentiquement maison, dès la première bouchée, vous succomberez. Le pâté à l'oie, c'est la tradition réinventée par Normandin. Généreusement garni d'oie, de viande et pommes de terre sous une pâte dorée et feuilletée. Accompagné de leur ketchup aux fruits maison, il est doublement savoureux. Au comptoir du prêt à emporter ou en salle à manger, dépêchez-vous d'en profiter, car le pâté à l'oie est offert pour un temps limité. Normandin, ça fait plaisir.
Boulevard. Saviez-vous que Denis Gravel a presque été champion de génie en herbe avant de faire de la radio et que Max Larouche adore se faire tatouer les numéros de joueurs de hockey? Ah! Maintenant, vous le savez.
Puis on parle aussi d'affaires pertinentes.
Boulevard 102.1. Tes sujets, ton rock, ta radio. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le Marceau, soir. Le soir.
Comme à chaque lundi, c'est les soirées avec Maître Marc Bellemare. Maître Bellemare, comment ça va? Vous êtes dans votre voiture présentement. On réussit à faire des émissions de radio en direct d'une voiture. C'est fou comment la technologie avance. Hein?
Hey, on n'aurait pas pensé ça il y a même 10 ans ou 15 ans. Mais oui, ça a du bon côté. Puis le son est bon, la qualité est bonne. Et bon, écoute, moi je plaide aujourd'hui, c'est à Saint-Hyacinthe, sur le tribunal administratif du travail. À 6h20, j'étais sur la route à matin pour aller plaider ça à 9h. Alors, ça me permet de te parler aujourd'hui, mais de l'extérieur, parce que je ne serai vraisemblablement pas à Québec aux heures appropriées. Mais il demeure qu'effectivement, on peut faire des choses. Et tu te souviens, les premières fois, quand on avait des émissions, on faisait ça en studio.
Ouais.
Et il y avait un déplacement tous les lundis, ou en tout cas, une fois par semaine. Et bon, il y a une autre dynamique aussi quand on est en studio. On se parle, on est proche, puis c'est un peu différent quand même. Mais le fait de pouvoir le faire à distance comme ça, ça assure une régularité, une ponctualité dans les émissions. Et ça, c'est évidemment primordial.
Exact. Donc, merci beaucoup d'être avec nous comme à chaque lundi. On y va avec des petites vites maintenant, des petites nouvelles qu'on a vues passer qui nous ont marquées. Un agent de sécurité des promenades Gatineau qui a récemment sommé une mère, donc il a demandé à une mère de ne pas allaiter son enfant de 3 mois en public, une situation qui a été dénoncée par la mère d'ailleurs. Et ça nous ramène un peu au débat entourant l'allaitement dans les lieux publics. Bien honnêtement, Maître Bellemare, moi, j'ai jamais eu de problème avec l'allaitement des enfants en public. J'ai travaillé dans la restauration pendant plusieurs années, métier que j'ai adoré, soit dit en passant, et des mères qui nourrissaient leurs enfants dans le restaurant. Il n'y avait pas de problème, il n'y a pas de serveur qui allait les avertir. Je ne peux pas croire qu'en 2024, on revient avec ce sujet-là. Sais-tu que l'information ne s'est pas rendue? Sais-tu que l'agent de sécurité a jugé que la femme a montré peut-être un peu trop sa poitrine? Qu'est-ce qui s'est passé réellement dans ce dossier-là? Mais j'en reviens pas que ce type de dossier-là revienne dans l'actualité.
Ouais. Je sais pas, c'est peut-être une question de clientèle aussi. Les centres d'achat, qui fréquente les centres d'achat, Yann? Moi, ça fait un sacré bail que je ne suis pas allé. Alors, il y a peut-être une clientèle un peu plus vieillissante, un peu plus sensible à ce genre d'exposition-là, cacher ce sein que je ne saurais voir. Mais effectivement, moi, ça me dépasse et je n'en reviens pas qu'un agent de sécurité soit allé aviser la dame d'aller allaiter dans un cubicule approprié, quasiment comme les fumeurs, tu sais. Alors que le tabac est en perdition, l'allaitement est plutôt en remontée. Et effectivement, mais il n'y a pas de loi au Québec formelle qui décide que l'allaitement doit être accepté partout. On n'a pas légiféré là-dessus, mais au nom du respect de la maternité, hein? On ne peut pas discriminer quelqu'un pour des raisons de sexe, on ne peut pas discriminer quelqu'un pour des raisons de... On ne peut pas congédier quelqu'un pour des raisons reliées à la maternité parce qu'elle a fait une fausse couche. Et il y a même des jugements de cour qui disent qu'ils annulent des jugements, qu'ils annulent des congédiements parce que le congédiement visait une femme en âge de procréer. Elle n'était même pas enceinte, là, mais elle était susceptible de procréer. Elle n'a pas été embauchée parce que le boss ne voulait pas avoir un congé de maternité sur les bras au bout d'un an, 3 ans, 4 ans. Alors, ça aussi, c'est discriminatoire et ça justifie une réintégration par une ordonnance de cour. Alors, l'allaitement, c'est un peu dans ce gabarit-là. Et voilà, mais on nous dit dans la dépêche que l'agent de sécurité n'était pas formé puis qu'il était pas, il a fait une erreur. Donc, il y a comme une espèce de confession de la part de Promenade Gatineau. Mais... je pense que les femmes qui ont quand même le courage de sortir de chez elles puis d'allaiter leur enfant en public, ça, moi, pour moi, c'est méritoire. Tu sais, il faut être décomplexé, il faut assumer sa maternité, il faut assumer son bébé. Puis, c'est pas tout le monde qui fait ça, là, mais quand une femme ose le faire, moi, je suis content de voir qu'au Québec, il y a des petites mères qui sont assez solides pour pouvoir aller de l'avant avec ça puis ça commande plus le respect qu'une interdiction. Ouais,
parce qu'il y a des salles d'allaitement dans les centres d'achat. Moi, je me souviens d'avoir vu ce type de salle-là. Je n'ai jamais été dans une salle d'allaitement, mais aux Galeries de la Capitale, de mémoire, il y en a une qui est située dans le secteur des toilettes là, ou le cinéma. De l'autre côté, moi, ce que je déplorais, c'est que dans les salles des gars, il n'y avait pas de planche à... De planche pour changer les couches.
De planche à bébé.
De planche à bébé. Fait que là, je devais mettre un de mes gars sur le comptoir pour essayer de changer la couche, alors qu'il y a des gars qui étaient à côté de moi qui se lavaient les mains. Je trouvais ça assez particulier, mais j'ai été surpris. Selon le site Éducalois, l'allaitement en public est toujours pas une loi spécifique. Hein. Les tribunaux ont juste jugé qu'on peut pas empêcher une femme d'allaiter dans un lieu public, mais il n'y a pas de loi spécifique qui concerne l'allaitement en public. Est-ce qu'on pourrait la mettre, cette loi-là, pour montrer effectivement que ben, ça existe et que les femmes aujourd'hui, en 2024, peuvent allaiter partout sans se faire achaler par des gars qui ne connaissent pas la loi? Là?
Bien sûr, ça pourrait se faire. À l'occasion d'une éventuelle revision de la loi sur les normes minimales du travail, ça pourrait se faire. Bien sûr, on peut, ça peut faire partie de la Charte des droits et libertés, mais les juges sont allés assez loin pour tolérer et même peut-être pas promouvoir l'allaitement public, mais au moins empêcher qu'il y ait une interdiction de ce côté-là. Mais bien souvent, la réalité devance les lois. Hein? Les gouvernements sont toujours un peu les derniers à agir. Quand ils sentent qu'il y a un vrai consensus social, ils vont aller de l'avant. Alors, je pense que c'est une question de temps avant que nos lois ne prévoit ce genre de disposition-là. Mais en attendant, les femmes du Québec doivent savoir qu'elles ont le droit d'allaiter n'importe où, n'importe quand, et que ils ont les tribunaux de leur côté.
Autre sujet dans les petites vites avec Maître Marc Bellemare, on parle de la Cour suprême qui a servi une belle victoire au groupe de protection des voyageurs. La Cour suprême qui a entériné un règlement qui force les compagnies aériennes à verser des indemnités pour les retards, les annulations et même les problèmes de bagages. Petite histoire courte, moi quand j'avais 18 ans, je me suis payé mon premier voyage à Cancun, puis j'avais mon petit bagage à main et j'avais ma valise. Et quand je suis arrivé à Cancun, on m'avait dit, j'étais où le tourniquet pour ma valise, puis on s'est rendu compte que ma valise n'était plus là. Elle était rendue dans le secteur de Vancouver, à ce que j'ai su par la suite. Mais ce qui fait en sorte que pendant une semaine, j'ai été à Cancun, Maître Bellemare, avec un T-shirt, une paire de culottes courtes, puis je les ai gardées pendant 7 jours. C'est pas vrai, j'avais acheté un T-shirt au village, mais j'ai gardé ça pendant 7 jours sur le dos. Puis la compagnie ne m'avait jamais dédommagé là, pour les dommages que j'aurais pu avoir ou que j'ai eu, en fait, là, 7 jours avec le même linge sur le dos. T'as de l'air un peu bizarre.
Toutes les belles rencontres que t'as pas eues à cause de ça.
Maître Bellemare, j'allais laver mon linge dans la piscine le soir quand les agents de sécurité n'était plus là pour me surveiller. J'allais plonger dans l'eau 3 à 4 minutes avec mon linge pour être sûr que le lendemain, ben, je sente pas les vidanges.
Le swing, ouais, surtout à Cancun, des odeurs des fois, mais il reste que tu as le droit de laver tes bobettes dans les lits aussi. Hein? Il y a du savon au Mexique.
Oui, oui, ben c'est ce que j'avais fait là, pour risquer des sous-vêtements. Mais mon T-shirt et tout ça, c'était moins compliqué d'aller me pitcher dans la piscine.
Oui, mais écoute, là, en vertu de la nouvelle convention, on parle d'une convention d'indemnisation pour les passagers d'avion qui est adoptée en 2019. Puis imagine-toi donc que les compagnies d'aviation ont contesté ça. Hey, c'est vraiment du drôle de monde. Hein? Air Canada, United, Air China même, qui contestent en disant non, 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 ça marche pas, c'est pas légal d'avoir ce type de convention-là. Bien, ça montre jusqu'à quel point ils nous méprisent. Là, moi, les compagnies d'aviation, c'est à peu près les organisations les plus au niveau du comportement, là, c'est incroyable. Les gens voyagent de plus en plus. Ils ont du monde à plein. Puis ils ont le souci du consommateur. On dirait que c'est vraiment pas ça qui les étouffe. Alors, toi, là, avec tes bagages perdus, tu aurais pu avoir jusqu'à 2 300 $. Alors, c'est jusqu'à 2 300 $. Ça ne veut pas dire que c'est 2 300 $ automatique parce que ta brosse à dents n'a pas été retrouvée ou parce que tes bobettes n'ont pas été retrouvées. Mais il reste que les bagages perdus, ça va jusqu'à 2 300. Le refus d'embarquement, ça, c'est quand ils font de l'over reserve, là, quand il y a 150 sièges dans l'avion puis qu'ils décident de rendre 170 billets. À ce moment-là, tu arrives puis tu ne peux pas embarquer parce que ils ont fait de la sur-réservation, 2 400 $. Moi, je trouve que c'est quand même des pinottes, là. Écoute, là, t'as prévu un voyage à Paris, toi. Québec-Paris, parce que ça se fait l'été, Québec-Paris, Québec-Londres aussi directement. Et puis, tu arrives à l'aéroport tout content avec tes bagages, tu t'en vas voir la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, en bas donc, puis tu. Les Champs-Élysées, puis on te dit, ben non, il n'y a plus de place, M. Meursault, vous ne pouvez pas embarquer, parce que la compagnie a trop réservé de place, ils ont donné ton siège à quelqu'un d'autre. 2 400 $, je vais te dire une affaire, ça ne paiera pas ta peine d'amour pour ne pas être allé à Paris. L'annulation d'un vol, c'est 1 000 $. Mais ça, c'est l'annulation d'un vol à la discrétion du transporteur parce que la convention ne s'applique pas s'il y a une tempête, s'il y a du verglas ou s'il y a des conditions, une tornade là, ou des conditions météo dangereuses. Si ce n'est pas de la faute du transporteur lui-même, si ce n'est pas à sa discrétion que le vol est annulé, tu peux avoir 1 000 $. Alors, c'est une bonne nouvelle pour les consommateurs, mais c'est sûr qu'au bout de la ligne, c'est toi et moi qui allons payer pour ça, parce que si les Air Canada est obligé de donner 1,5 million à l'ensemble de ses, je donne ça un chiffre en l'air comme ça, là, à l'ensemble de ses usagers, parce qu'il y a eu de multiples erreurs, à ce moment-là, il va y avoir une augmentation des tarifs. Mais ça, c'est dans n'importe quel domaine. Ouais. Dans le domaine de l'assurance, plus tu réclames, plus l'assureur perd des causes, ces frais-là, il refile au consommateur, il met ça dans ses dépenses, l'année d'après, mais les primes augmentent. On n'y échappera jamais. Il n'y a pas un commerçant qui va assumer ses pertes, qui va nécessairement les transporter, les transférer aux consommateurs jusqu'à ce qu'il soit plus capable de le faire, parce qu'à ce moment-là, il va fermer ses portes. Et on parle de 79 000 plaintes actuellement qui sont en attente. Alors, il y a beaucoup d'insatisfaction dans le domaine de l'aviation. Mais un retard pour un vol, c'est pas considéré comme étant la responsabilité de l'assureur. Et même chose pour les conditions climatiques, comme on l'a dit tantôt. Mais c'est quand même, en gros, une bonne nouvelle pour les consommateurs. Bonne chance pour la paperasse, si jamais vous voulez réclamer, mais la paperasse possibilité existe.
Ouais, les assureurs sont prêts à tout pour nous avoir comme clients, mais quand c'est le temps de nous dédommager, ils essayent de faire leur possible pour qu'on ne se rende pas au bout du processus. Maître Bellemare, je vous souhaite de passer une belle fin de soirée. Bon retour vers Québec, puis on se reparle lundi prochain.
Parfait. Bonne semaine, tout le monde.
Merci beaucoup. Salut, bye-bye. Pour des dossiers de SAAC, d'IVAC, de CNSST, c'est Maître, c'est bellemareavocat.ca. Et à chaque lundi, on s'entretient avec Maître Bellemare pour parler de l'actualité, puis du droit, bien entendu. Passez une belle soirée. On se reparle demain, 10h, avec Audrey. Sinon, ce sera demain soir, 18h, dans Marceau Soir. Merci d'avoir été là. Bye-bye.
Marceau, le soir.
Salut la gang, c'est François Baudry, chroniqueur web de l'émission Gravel dans le retour. T'aimes mes chroniques? Tu veux en savoir plus sur le monde numérique? Rends-toi sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube.
Chez Laval Volkswagen, on veut toujours le meilleur pour vous. Profitez d'un taux de financement de 1,99% jusqu'à 60 mois et d'un rabais pouvant aller jusqu'à 1 000 $ sur votre prochain Volkswagen Taos. Avec le Taos, vivez la conduite allemande. Vous pensez Volkswagen? Pensez Laval Volkswagen.
Les 48 cégeps du Québec vous ouvrent plein de portes.
Ça inclut les portes de garage?
Ben non, pas ce genre de porte-là. Avec la formation préuniversitaire et technique, le cégep vous ouvre les portes de l'université et du monde du travail.
Ah, puis les portes de douche.
On parle pas de portes de douche, on parle des portes que le cégep vous ouvre pour l'avancement de votre carrière et le perfectionnement de votre main-d'œuvre avec la formation continue et aux entreprises.
Ah, puis les portes de patio.
Trouvez votre cégep et votre programme sur lecégep.ca. Les 48 cégeps, ça ouvre bien des portes. Mais pas toutes.
Les 12 et 13 octobre, plongez dans l'univers fantastique du Comic-Con de Québec pour sa 10e édition. Venez rencontrer les vedettes derrière les voix de vos émissions et de vos jeux vidéo préférés, ainsi qu'Annick Jean, Sébastien Trudel et bien d'autres. Amusez-vous dans la tour de jeux indie Loto-Québec et les zones de jeux sur table. Des milliers de fans costumés en leur héros préférés envahiront le centre des congrès. Vivez l'expérience ultime de la culture pop. Billets en vente au comicconquebec.com.
Découvrez ou redécouvrez le 101, votre restaurant de quartier où la cuisine locale rencontre l'élégance. Cet automne, réchauffez-vous chez Gus, la guinguette de quartier, pour partager un bon verre dans une ambiance chaleureuse et réconfortante. On se voit bientôt dans votre quartier. Réservez au le101restaurant.com.
Du 11 au 14 octobre prochain, Québec célèbre les arts de la rue avec Réverbère. Au cœur du Vieux-Québec, de 13h à 20h, laissez-vous surprendre par une foule de performances spontanées. Soyez-y, c'est gratuit. Détails au ville.qc.ca/réverbère.
T'as manqué le début du dernier segment? Tout finit par se retrouver sur le blvd.fm.
C'est la grande vente sous la tente chez Avalanche. Du 10 au 14 octobre, des méga rabais vous attendent à nos succursales de Sainte-Anne-de-Beaupré et Wilfrid Hamel. Économisez jusqu'à 70 % de rabais sur les vêtements d'hiver, manteaux, pantalons, accessoires de ski et profitez d'une remise de 25 $ sur la location de ski junior à 99 $. Ne manquez pas l'occasion. La grande vente sous la tente, c'est du 10 au 14 octobre chez Avalanche. Des vêtements chauds pour un hiver agréable.
Mon père dit que les nouveaux rayés de Kaleido sont rendus full flexibles. Il adore économiser des sous pour mon avenir, comme il veut, quand il veut. Fait qu'il risque d'adorer mon idée de ranger ma chambre, quand je veux et comme je veux. Merci Kaleido, l'épargne étude qu'en fait plus.
Prenez part au plus gros événement industriel de l'Est du Québec. Du 8 au 10 octobre, rendez-vous au Salon industriel de Québec au Centre de Foire. Découvrez produits, services, équipements et technologies. Réseautez avec les fournisseurs et participez à des conférences. Inscription gratuite au salonindustriel.com.
Pour Énergir, c'est important de s'unir pour un avenir plus durable. Ça veut dire qu'Énergir travaille à mettre en place plus de solutions, plus responsables pour être plus efficaces et émettre moins de gaz à effet de serre. Le but, c'est d'être de plus en plus nombreux à créer et utiliser plus d'énergie renouvelable et ainsi consommer moins d'énergie fossile. Parce que c'est en rassemblant nos énergies qu'on peut en dépenser moins.